Bon, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord remercier la librairie Mola de nous accueillir. L'artiste et le savant pour un dialogue qui sera impromptu et je l'espère le plus éclairant pour vous permettre d'aller regarder tout à l'heure ces belles peintures si vous les avez déjà vues, qui sont une véritable œuvre, une œuvre qui est poursuivie depuis très longtemps maintenant.
Bah oui, un petit demi-siècle quoi.
Un petit demi-siècle, voilà. C'est très rare une œuvre aussi persistante dans ses intentions, dans ses finalités. C'est la première chose qui frappe, c'est-à-dire la continuité qu'il y a dans l'œuvre de cet artiste qui est à la fois modeste et très ambitieux dans son propos et modeste dans ses conduites, avec une épouse admirable qui est une bordelaise. Mais ce n'est pas sa plus grande qualité. C'est aussi quelqu'un qui est de ce monde, mais qui l'est avec beaucoup d'élégance et de présence. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié sa côte de bœuf, mais j'ai apprécié aussi qu'il était quand même spécifiquement bordelaise. Et puis quand même l'intérieur, ces ateliers qui sont là comme une suite plus ou moins discontinue dans une maison merveilleuse au milieu d'un jardin, qui n'est pas un jardin de curé, contrairement à ce qu'on pourrait dire si on parlait facilement, mais qui est un véritable jardin d'artiste, où la nature apparaît sous la même forme qu'elle apparaît dans les tableaux de Fagnès, qui est un peintre que je ne qualifierais surtout pas de naturaliste, mais qui est un peintre que la nature inspire, si je crois bien.
Oui, la nature, et particulièrement ce qui amène à la nature, c'est-à-dire le monde élémentaire, dont je suis parti de là. Et effectivement, très tôt, j'ai été touché par l'événement élémentaire de l'eau, qui pour moi a été très déterminant. J'ai commencé à travailler sur la Dour quand j'étais très jeune, et très vite la pluie sur la Dour était un des thèmes qui m'a énormément marqué. Et incidemment, aujourd'hui, après être passé par des quantités de strates différents, etc., je retrouve un peu ces attirances du début où le fluide et transporte quelque chose que la pensée a quelquefois du mal à accompagner et qui vous emmène plus vite que cet outil que nous avons dans la tête et que vous avez si bien étudié et qui nous explique à quel moment notre intervention existe ou au contraire on est emmené par les phénomènes qui nous entraînent dans notre comportement et cette espèce de comportement que moi je parle plus des éléments qui nous constituent et qui font que la nature nous apporte cette espèce d'ouverture si faste au comportement du pictural, parce que là encore le pictural, à quel moment il intervient. J'étais si content de lire votre point de vue là-dessus et de voir à quel moment vous pensez dans tout ce rapport à cette notion du diable qui m'a tellement touché, parce qu'il y a un côté qui vient on ne sait où et on réagit. Pourquoi subitement une flaque d'eau va vous émouvoir encore plus que si vous voyez des grandes gorges étonnantes, etc., et pourquoi d'un seul coup notre rapport à ce monde en formation, comme nous sommes nous tous en train de commencer quelque chose. Et j'ai cette notion d'être en train de commencer. Et de vous avoir rencontré, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai senti que vous, de votre côté, vous aviez ce même appétit.
Oui, bien sûr, c'est parce que vous faites une peinture du corps qui est tout le contraire d'une peinture abstraite. On pourrait penser que vous êtes dans l'abstraction. Or, vous n'êtes jamais dans l'abstraction, vous êtes toujours dans le corps et dans la jouissance du corps, même éventuellement la souffrance que j'ai appelé l'état central fluctuant, qui décrirait bien, dans le fond, sous forme de représentation, la peinture que vous faites. Je reviens sur le diable, on pourra en reparler plus tard. Votre diable est un bon diable, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la dialectique du mal, il n'a pas... On n'a pas besoin de manger avec lui en utilisant une longue cuillère. C'est un diable rassurant, c'est une sorte de diable bienfaisant. Comme dans beaucoup de religions, le diable est plus un comparse qu'un adversaire, bien que dans la tradition chrétienne, ce soit l'adversaire, celui qui est contre. Mais c'est vrai qu'au sein de notre cerveau, le fonctionnement est de type binaire, c'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle les processus opposants et que chaque sens, chaque sensation, chaque sentiment finalement, qui est pratiquement toujours venu du corps ou du monde extérieur, l'espace extracorporel, mais qui est toujours médié par le corps, va s'adresser à ce qu'on appelait autrefois dans le langage classique la chair, va s'adresser au cerveau qui va en faire une sorte de synthèse et de support pour tous nos actes, que ce soit des actes en pensée ou des actes en comportement. Et moi, je suis un de ceux qui défend la position que l'affect est le support sur lequel se construisent nos conduites. Autrement dit, tous nos comportements sont d'abord d'origine affective. Et vous savez, Épicure parle de l'âme, qui est un concept que j'utilise bien volontiers, sans être spiritualiste, bien au contraire, et très moniste au contraire. Il dit que l'âme, c'est le cri de la chair, effectivement. La chair s'exprime constamment dans notre relation au monde, dans notre relation à notre corps, bien entendu, qui est le médiateur de tout ce que la nature, le monde extérieur, va apporter à ce corps et faire de vous ce que vous êtes. Il va vous donner une psyché qui va vous permettre de gérer, par l'intermédiaire de vos actes, de vos conduites et de vos pensées, votre relation à l'autre, qui me paraît être la chose essentielle. Alors, une peinture, ça s'adresse toujours... Et c'est une représentation, et c'est une représentation qui s'adresse à l'autre. L'autre est toujours présent dans la peinture de Fagnès, parce que, évidemment, il a ce souci de s'adresser, comme tous les grands artistes, au regard de l'autre et de partager avec l'autre son regard. Et c'est dans cet échange des regards que va se réaliser cette chimie mystérieuse qui est la chimie des éléments, et dans lequel l'élément liquide est probablement le plus fondamental. Bien qu'il y ait aussi du feu dans la peinture de Fagnès, bien qu'il y ait aussi de l'air, et que les quatre éléments qui conditionnent en même temps les quatre humeurs décrites par les médecins de tradition épicurienne sont représentés dans cette peinture. C'est une peinture humorale, c'est une peinture qui repose sur les humeurs, où les humeurs, par principe, elles sont liquides. Ça a donné chez nous plus tard les hormones, bien que ce n'est pas la même racine, mais ça veut dire que tout va passer par ce que j'appelle le cerveau flou, le cerveau mou, le cerveau liquide, dans lequel les connexions électriques rigoureuses qui font ressembler le cerveau à un ordinateur, à un super ordinateur, sont en fait dépassées par ces influences qui sont faites dans le jeu, dans l'équilibre des humeurs, et qui se retentissent évidemment sur tout ce que va être votre pensée et votre comportement. Voilà, je suis peut-être un peu confus pour expliquer mes théories, mais elles s'adaptent parfaitement à ce qu'est la peinture de Fagnès. Donc je lui repasse la parole après ce long préambule pour essayer de préciser un peu ces différents points qu'on a évoqués l'un et l'autre.
Moi, je ressens très 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 bien tout ce que vous venez de dire. Je ressens d'autant mieux qu'effectivement, l'affect, à un moment donné, doit presque arriver à faire à un jeu d'effacement de la plénitude qu'on a de nos savoirs, et que c'est au moment où nos savoirs s'épuisent que commence cette espèce d'étrange espace où on peut laisser passer des choses qui ne passeraient pas s'il n'y avait pas eu cette espèce d'affect de départ qui vous amène vers ce cheminement, et où, étrangement, plus la chose est passée, plus la chose va revenir sous un... où la part du spectateur commence, là. La part du spectateur commence parce qu'on a toujours dans le dos quelque part...
Donc, de l'échange avec l'autre.
C'est ça.
Obligatoirement.
Obligatoirement. Et il y a toujours quelqu'un qui nous contrôle, on ne sait pas d'où. Quand on est tout jeune, c'est les premiers livres qu'on a lus sur la peinture. On a l'impression d'avoir Cézanne qui vous regarde en train de peindre. Et puis petit à petit, ça se complique, c'est beaucoup plus rapproché ou au contraire. Mais on est cette espèce de bizarre état dans lequel ça se passe, parce qu'il y a quand même à un moment donné... Il y a tout le travail journalier de tout ce qu'il faut faire, les petites choses les unes à côté des autres. Mais il y a un moment donné où se met en route quelque chose où ce que vous appelez l'affect vient vous visiter parce que vous l'avez eu, parce que c'est quelque chose qui, quand je vais me promener ou comme je passe mon temps avec mes petits carnets de croquis, avec mes visions, là je reviens de l'océan. Bon, toutes ces choses-là, sur le moment, on ne sait pas ce que c'est, mais petit à petit, ça va revenir... comme des espèces de sommes, des sommes un peu intangibles, des sommes avec lesquelles il faut faire, et qui sont souvent des choses, il faut les pousser jusqu'au moment où elles vont déclencher un phénomène qui va les effacer. Et l'œuvre d'art a une petite chance, le pictural, moi j'appelle ça le pictural, a une petite chance de commencer à trouver son chemin, ses résonances, et puis ses propres lois, parce que d'un seul coup, c'est lui qui nous indique ses propres lois qui viennent de la charge que nous avons en venant au pictural. On vient avec toute cette énorme charge.
Affective.
Et très forte, très forte. Et donc, sur ce plan-là, je dois bien avouer que je partage tout à fait ce phénomène de surcharge où l'art va nous évider et permettre la naissance d'un espace autre, cet espace oui. autre, où l'autre a une telle importance.
Vous dépassez les grands problèmes de la physique ou de l'aristotélicienne qui met en parallèle la force et la forme. Dans le fond, vous êtes l'anti-matière, je dirais, d'une certaine façon. Enfin, la matière dans la mesure où elle s'incarne dans les formes. Vous savez qu'il y a une mathématique des formes qui a beaucoup inspiré la biologie moderne avec les gènes, les formes qui sont répétitives, toujours imposées par une série de forces qui sont en œuvre, dictées par des gènes et qui permettent ces admirables créations de la nature que sont... par exemple, une coquille de crustacés, par exemple d'un nautile ou des choses comme ça. Et bon, Darcy Thompson a très bien analysé ça et mettant en équation cette tendance à l'abstraction qui débouche sur la forme. Mais la forme est évidemment la pire des choses en ce qui concerne l'incarnation, en ce qui concerne l'affect. Moi, il y a un paradoxe dans la peinture abstraite qu'on appelle aussi quelquefois la peinture informelle pour certains, alors qu'elle est au contraire, c'est une peinture, il y a quand même des formalistes aussi qui sont mis quelquefois paradoxalement sous la même enseigne. Malevitch, par exemple, c'est très difficile d'expliquer à quel point c'est une explosion d'affect qui se fait dans la rencontre de quelques cubes carrés et de couleurs fondamentales complémentaires qui s'affrontent. Mais on est dans une autre peinture. Et ce concept d'abstrait, à mon avis, vous lui tournez complètement le dos parce que, justement, vous faites ce qui est la véritable démarche intellectuelle, celle qui exprime la réalité du fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire que vous partez des sens, vous partez de l'affect et non de la forme. Le système optique qui va, je vais vous faire un peu de science, quand il va regarder une forme, il y a des voies qui arrivent de la rétine et qui vont être reconnues dans les aires postérieures ici, les aires occipitales. Alors il y a des aires qui s'emboîtent les unes sur les autres, il y en a une qui reconnaît d'une manière générale la forme, mais après ça va être analysé par une succession de couches auxquelles l'information est transmise. L'une donne la forme, l'autre donne le mouvement, l'autre donne la couleur, le troisième, le quatrième, le mouvement. Et ainsi, vous allez créer un objet qui est une représentation, ce problème de la représentation. Mais c'est encore quelque chose qui n'existe pas, si vous voulez. Ça n'existe pas dans le cerveau parce qu'il n'y a pas eu, à ce moment-là, une sorte de prise en compte par le cerveau de cette forme avec ses différentes caractéristiques. Et à ce moment-là, il y a deux voies qui partent dans le cerveau. Il y a une voie qui va être celle qui va vers le bas, vers le cortex temporal, et qui est la voie sémantique. C'est celle qui donne le nom à l'objet, à la représentation. C'est pour ça que l'importance des mots, quelquefois, dans la peinture, ça a été souligné par plusieurs auteurs, les mots dans la peinture, c'est quelque chose de très important, et tout le monde s'accorde à reconnaître l'importance, de, par exemple, d'un nom dans un tableau, d'un titre, et puis la peinture qui est carrément du langage, qui est carrément de la sémantique pure. Et donc, cette voie-là va nommer l'objet et lui donner une existence sémantique. Et puis, il y a une voie qui est vers le haut, qui est, pour le peintre, probablement la voie la plus importante. C'est celle qui va vers les aires motrices et réceptrices du cortex pariétal et du cortex moteur, temporal, qui va transformer la perception en action. C'est-à-dire que tout objet qui est représenté, grâce à cette voie, va être situé à la fois dans l'espace et dans sa forme qui va se dérouler. Et donc, c'est une voie qui agit en quelque sorte la représentation. C'est pour ça que je préfère parler de représentation, comme si l'action était inséparable de la représentation qui a donné naissance à cette action. On ne peut pas séparer les deux. Je cite toujours cette parole de Goethe qui disait « Ce que je n'ai pas dessiné, je ne l'ai pas vu ». Il y a une sorte de prise en main par le regard, de prise motrice de l'objet qui est ainsi en cause. Alors évidemment, les formalistes ou les abstraits, je ne sais pas comment les appeler, jouent beaucoup sur ce système de représentation. Mais il faut savoir que le cerveau est bien plus malin que ça, puisque en réalité, quand vous avez la conscience d'un acte ou d'un objet, qui est, je vous le disais donc, aussi un acte, quand vous en avez conscience, c'est déjà fait. Le cerveau a fait tout ce travail sans que vous en soyez conscient. Quelquefois, quand vous prenez une décision, je vais appuyer sur le bouton de droite ou sur le bouton de gauche, je vais tourner à droite ou à gauche, je vais prendre cet objet, je ne vais pas le prendre, etc., je vais faire tel acte. La décision a été prise dans le cortex pariétal, quelquefois 5, 8, 10 secondes avant. Donc, on peut dire que la conscience, en réalité, est une illusion. La conscience n'existe que quand elle apparaît. Et évidemment, à un moment donné, l'objet va apparaître, puisque vous le reconnaissez. Vous allez en faire travailler la voix basse, c'est-à-dire vous allez lui donner un nom, et en même temps, vous allez le reconnaître. Il va exister dans votre conscience, mais en réalité, c'est artificiel. Ce n'est qu'une illusion. La perception est déjà passée. Elle est déjà une chose passée. Et le cerveau a travaillé sans que vous en soyez conscient. C'est donc une illusion. Donc là, on peut dire que la conscience est une illusion. Tout le monde n'accepte pas ça. Mais une fois que vous avez accepté ce principe, bien, on est beaucoup plus à l'aise avec Fagnès, parce que lui, il reconnaît la primauté de quelque chose qui ne va pas se décomposer de la même façon, qui va se sémantiser, bien sûr, mais qui va surtout se percevoir dans le vécu, dans le sentiment. Autrement dit, le cerveau devient à ce moment-là sentimental. Et c'est là-dessus que la conscience qui va apparaître, qui va pouvoir devenir une pensée ou une action, va se réaliser. Mais c'est une position qui est seconde par rapport à l'affect. Dès lors, je dirais que cette peinture de Fagnès est une peinture qui ramène au corps, aux viscères, à l'état du corps, à ses humeurs, système nerveux qui ramène l'état de votre tripe, de vos organes, qu'ils soient génitaux ou autres, et que là-dedans, vous allez construire vos choses qui font de vous de beaux intellectuels, mais qu'en réalité, le travail est déjà fait par le cerveau. C'est ce que les psychiatres, les psychanalystes ont reconnu avant les autres, mais ils l'ont formalisé pour retomber dans le même défaut que les intellectualistes et dans le même dualisme. Vous voyez ? Donc c'est une position qui est peut-être difficile à faire percevoir, et je vous demande de me pardonner d'avoir été aussi confus dans l'exposé de mes théories, mais elle s'applique magnifiquement à Fagnès, qui en tout cas m'a fait l'amitié, qu'il l'a fait pour me faire plaisir, de comprendre ce que j'avais voulu dire. Voilà.
Je comprends, et je comprends encore, et de mieux en mieux, et dans le fond, cette espèce de de gestion du mouvement, qui est notre façon de jouer du pictural, par où le mouvement qui partant de l'affect va un jour, à un moment que vous situez si bien et où l'illusion peut certainement prendre toute sa place, visiter notre cerveau, et comment, à quel moment lui va donner ses gestes un peu mécaniques pour nous, parce qu'on ne sait pas, on ne fait que constater après, les choses sont faites. Et en fait, cette espèce de gestion lente et imprévisible de ce mouvement qui, lui, n'arrête pas. On est tout le temps dans ce mouvement de la recherche. C'est pas forcément pendant qu'on peint que ça se passe, c'est le plus fort, c'est constamment. On est dans cette espèce de cheminement où on est épris d'un désir de faire avancer. Vous parliez de l'informel, on s'est servi de ce mot-là parce qu'il était bien commode. Il veut dire aussi un petit quelque chose, c'est-à-dire là où où la forme n'a pas encore pris le dessus pour déterminer, comme par exemple on parlait de l'eau, comment l'eau, quand elle traverse un territoire, elle forme ce territoire d'un seul coup, on reconnaît quelque chose. Bon, et ben notre pensée et notre pensée de peintre, qui est très secondaire, parce qu'en fait on est beaucoup plus, comme vous le disiez si bien, dans l'acte, dans la façon d'agir, que dans la manière de répondre à un mécanisme préfabriqué de la pensée qui serait fixé quelque part dans notre conscience. Et effectivement, on est tout le temps dans le monde de cette illusion, et s'il n'existait pas, je crois qu'on ne comprendrait pas. Et si cette façon dont vous le rapprochez justement de l'idée qu'on a du côté diabolique des choses, etc., eh bien, là encore, s'il n'y avait pas cette grande faiblesse dans les enchaînements de comportements, parce que c'est des enchaînements de comportements par rapport à ce mouvement lent qui d'un seul coup va s'accélérer, on ne sait pas pourquoi, et pourquoi en quelques secondes on va réussir à trouver sur une peinture les solutions que des mois et des années n'y ont pas. On n'y est pas arrivé, puis d'un seul coup, on ne sait pas par quel mystère, des choses se rencontrent, des choses s'agrègent les unes avec les autres, des choses comme se font la façon dont on a été fabriqué peut-être, je n'en sais rien. Mais effectivement, la place de l'illusion est très 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 forte, parce qu'on n'est pas marqué par un devenir, on est marqué parce qu'on y va comme on peut.
Oui, puis vous confrontez... C'est ce que, sur lequel beaucoup de gens qui vous voient votre peinture, à un moment donné, se disent « mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe là ?» Il y a le tube qui crache sa peinture, il y a la dilution de la peinture, et puis il y a des coulages, le fameux coulage qui suscite beaucoup de références au mal peint, ou quelque chose où il n'y a pas de fini, il n'y a pas de rendu, il n'y a rien. Tous les principes de l'art qui cherchaient à tourner le dos justement par un formalisme excessif, comme je ne sais pas, moi, chez Lorrain, hein, ou chez les grands du XVIIe siècle, chez Simon Vouet, c'est tout à fait autre chose, c'est une autre peinture, même si les principes, en fin de compte, sont les mêmes. Parce que quand vous échappez à la prison de la forme, vous allez retrouver avec le même problème que vous appeliez Léonard de Vinci ou Caravage. C'est, de toute façon, ça va être cosa mentale,
dit Léonard,
mais en réalité, c'est d'un dualisme effroyable. En réalité, c'est cosa carnale, c'est la cause de la chair. Qu'est-ce qu'il cherche, Léonard de Vinci, pour prendre celui qui est à la mode en ce moment? Ce qu'il cherche, c'est la jouissance, c'est cet état dans lequel vous allez être plongé par la contemplation de la peinture, et qui échappe justement à... moi, j'ai fréquenté beaucoup Reclus pour écrire sa vie. Et il a écrit l'histoire d'un ruisseau. C'est un homme du liquide, lui aussi. Mais pas de la mer, c'est de l'eau qui coule, l'histoire d'un ruisseau. C'est extraordinaire, parce qu'en même temps, il va s'intéresser à la description des sources, des captures, des recaptures, des méandres, de la relation avec la berge et le courant, toutes ces choses-là. C'est une poésie extraordinaire. Si vous n'avez pas lu l'histoire d'un ruisseau, il faut la lire. C'est un chef-d'œuvre de la littérature du XIXe siècle. Bravo, vous avez bien fait. ça va vous inspirer. Mais en même temps, c'est on se retrouve près de Whitman aussi. C'est le brin d'herbe. Comprenez ? Donc, il est capable de passer 10 pages à vous décrire un brin d'herbe.
Ah c'est magnifique.
Et c'est ce qu'on retrouve c'est ce que j'aime dans la peinture de Fanny. C'est justement cette espèce de spontanéité, de jaillissement de la forme dans l'émotion. Et voilà, nous sommes
quand vous parliez des opposants, vous parliez des opposants à propos de Lorrain, c'est un exemple. Quand on voit avec quelle science il abordait ses peintures, et quand il partait dessiner dans la campagne romaine, d'un seul coup, c'était justement la forme qui échappait à la forme, qui échappait, où l'affect reprenait le dessus, mais il n'y avait pas la demande à l'époque,
contrairement à l'autre grand, j'ai un problème avec les noms, mais enfin le plus grand, le plus grand peintre du 17e, peintre français, c'est la même chose pour les frères Lemain, mais enfin quand on a ces tableaux qui sont toujours formatés soufflez-moi le nom, le très grand.
Mais ça va venir, le cheval blanc de Poussin.
Petit Poussin. Voilà.
Le cheval blanc de Poussin.
Poussin, c'est la peinture qui est terriblement sentimentale.
Ah ouais, très
alors
fortement.
Que c'est un esclave du sujet. Les sujets étaient codifiés, tout était codifié, mais en même temps, le paysage lui échappe, tout lui échappe. Enfin, c'est ce que Lessing exprime le mieux dans le Lacan. On ne va pas faire un étalage d'érudition, mais enfin, c'est une peinture dans laquelle il y a une histoire, il y a une présence du temps qui est donnée. En même temps que celle de l'espace. Enfin, il s'attaque à des problèmes théoriques de base qui quelquefois rend l'intelligence très agressive, quoi, par rapport à plus agressive par rapport à d'autres peintres qui sont sûrement beaucoup plus proches de vous. N'empêche que c'est de la très belle peinture quand même. Hein. C'est pas.
Ah, oh, mais bien sûr.
Il n'y a rien de plus beau.
Bien sûr.
Enfin, c'est vrai qu'on préfère un peu les maniéristes, je suppose, parce que voilà, Pontormo, des choses comme ça, parce que la souffrance transcende chez le Primatis, transcende vraiment toute la forme et le reste, ou évidemment le Caravage qui reste le plus grand de tous. Et alors, c'est bien de parler du Caravage à propos de vous. C'est pas vraiment
pas facile, compliment. Pas facile.
Mais évidemment, il faut aller chercher loin la ressemblance. Vous parlez de la chair et du diable. Voilà, s'il y a un artiste chez qui la chair et le diable dialoguent en permanence, c'est bien le Caravage.
Oui.
Il est significatif artistes ont trouvé qu'il était mal peint.
Ben voilà, il est repoussé exactement de la même manière dont vous entendez des gens qui auprès de vous quand ils voient une œuvre qui dit
mais
non voilà
coulures, bon,
parce
c'est
que
mal peint,
parce que parce que il y a des attendus, leurs attendus décident et là dès qu'on sort des attendus, eh bien il est certain que le cheminement est beaucoup plus délicat, les passerelles sont beaucoup moins faciles à trouver. On n'est plus sur les autoroutes du grand conditionnement.
Non, non, non. Et alors, évidemment, quand on parle de ces processus opposants, de toute cette richesse qu'il y a dans cette gestion des humeurs, on se sent désemparé devant ce qui est l'art contemporain dans sa forme, je dirais, pratiquement abjecte, quoi, comme Jeff Koons ou des Murakami, des gens comme ça, qui sont insupportables C'est pas nul, c'est terrible, c'est d'une violence, d'une agressivité. Je parle toujours justement, c'est une expérience de l'eau, de Giambattista Tiepolo, quand vous êtes au Carezzonico à Venise, si vous tournez votre tête face à ce tableau qui pour moi est un des plus beaux du monde, qui est le Nouveau Monde, vous savez, où ils sont tous peints de dos et ils regardent un monde improbable qui n'est pratiquement pas figuré. On voit la lagune, ouais. ils tournent tous le dos, et ça s'appelle le Nouveau Monde, c'est génial. Et à ce moment-là, vous retournez, vous voyez se refléter dans la vitre l'horrible ballon chien de Jeff Koons qui se reflète sur le plus beau, un des plus beaux tableaux du monde. C'est effarant de voir à quel état de décadence. Il faut avoir le courage de le dire, parce qu'on n'est pas moderne, on n'est pas. Il y a ici quelques tenanciers de l'art contemporain le plus hard. Cette maison a montré des choses très. Il y a eu ici des choses très, très hard, toujours dans la décence la plus extrême. Il n'y a jamais eu d'exhibition. Les performances, comme on disait, moi j'ai vécu avec une performeuse, c'est toujours un peu à la limite de la décence. Hein. Mais non, il y a une, quand même, il y a une part du diable là qui s'est emparée complètement de l'être. Voilà. Et le diable, s'il ne s'oppose pas, et s'il n'y a pas ce jeu de contraste, s'il n'y a pas la participation de la chair, ça ne l'intéresse plus finalement, l'incarnation. Ah, mais le diable, il est là pour tenter. Et si vous n'êtes plus tenté, qui peut être tenté par un chef Kuhn?
Ça, moi, je ne prendrai pas parti parce qu'on reste, on reste prudent. Hein, parce que...
Moi, j'ai commencé avec l'art, comme ça, très tôt. Mais la force du désir et de la représentation est quelque chose. J'avais à peine 13 ans, j'étais surpris en train de dessiner des femmes nues que je vendais à mes petits camarades. J'étais en seconde, très précoce pour mon âge, et déjà avec un bon brin de plume, vous voyez, dont je faisais commerce. Donc j'étais à la fois...
Ça se sent.
Oh, je vous ai gentil de le dire, mais le directeur qui me prenait pour un ange, vous savez, c'était un milieu protestant très sévère et puritain. Et j'ai été condamné condamné ensuite à aller nettoyer les toilettes. C'était une ancienne colonie pénitentiaire avec pendant une semaine toutes les récréations avec de la lessive Saint-Marc. Nous frottions, arrachions ces inscriptions qui avaient 20...
C'est le début du pictural, on efface pour commencer.
C'était là, voilà, j'ai effacé. Mais je n'étais pas mécontent de mes petites femmes nues,
voilà,
quand même. Comme disait le directeur indigné, elles ne sont pas nues, elles sont plus que nues. Parce qu'évidemment, je leur mettais des bas jartelles. Donc, au port, celle de ma mère que j'avais vue traîner dans la salle de bain, je ne savais pas ce que ça pouvait être bien sur une femme. Tout ça était purement créatif. Donc, vous voyez comment l'opération mentale, pour moi, est importante, parce que je trouve de l'érotisme dans la peinture de Fagnès. Voilà, ce que je ne trouve pas dans la peinture de Jeff Koons. Voilà. Mais bon, c'est une position que j'espère il va défendre pour moi de façon moins provocante que la mienne. Donc, le langage. Fagnès est un peintre décent. Voilà, il est un peintre trop
c'est-à-dire
qu'il gomme la provocation.
Tout dépend au moment où on se situe. Peut-être qu'à un moment donné, ça apparaîtra tout à fait autrement que ça apparaît. Mais actuellement, étant donné qu'on met le devenir avant ce qui est en train de devenir, parce qu'on a tellement assoiffé et on est arrivé au-delà des possibles, justement, surtout ce monde de la sensation, et où la machine a pris tellement le dessus sur nous-mêmes, où la machine nous résonne à notre place, et où elle a cette espèce d'effet que pour garder notre teneur à nous, il faut faire acte de retenue très, 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 très forte, parce que sinon, tout fiche le camp, et effectivement, il y a d'autres moyens d'aborder le monde des sensations, le monde du visuel, le monde de la forme, le monde de la couleur, etc., qui vont tellement plus vite et qui sont tellement plus performants et qui disent des choses qui vont tellement à toute vitesse près des gens qu'il est sûr que c'est l'érotisme qui peut y avoir dans ces choses-là n'est pas lisible. Il faudra du temps pour y revenir, le temps du retour à un désir qui ne s'annonce pas de lui-même, qu'on découvre. Ah oui, je le désirais vraiment, mais je ne savais pas. Et c'est plutôt cette espèce d'état d'avant et d'état d'après qui se réunissent dans autre chose que celui qu'on nous propose à l'heure qu'il est. C'est tout, enfin, pour ce qui me concerne.
Oui. C'est... Il y a ici un peintre qui est aussi, j'appelle des peintres honnêtes, c'est-à-dire des peintres qui ne trichent pas. On peut reprocher à l'art contemporain d'être un trucage permanent. C'est les surréalistes dont j'étais un farouche partisan qui ont mis les trucs à la mode. Il s'agit de tromper les gens, c'est le principe de Duchamp et de tous ces petits enfants dégénérés qu'il a eus. Et c'est en soi extrêmement intéressant, mais je trouve que sur le plan du désir et de la représentation, c'est un peu court, c'est toujours un petit peu court. Alors qu'on peut avoir une démarche quand même Je pense à Lestier, qui est exposé ici, qui est un peintre bordelais, qui est d'une rigueur absolue, qui n'est pas un grand dessinateur, mais qui représente des signes. C'est une peinture-écriture, mais qui est très, très formelle, si on veut, mais qui est extraordinairement travaillée, avec beaucoup de, bah, beaucoup de d'esquisses, de compositions, de jeux dans les grilles, et des choses comme ça, qui est une peinture qui n'a rien de sensuel, mais très intellectuelle, avec des textes souvent qui sont des textes difficiles. Et c'est un peu la matière opposée à la vôtre, c'est-à-dire qu'on ne sent pas l'action, et pourtant, ça finit par se ressembler au niveau justement de l'émotion qui est déclenchée, c'est-à-dire qu'on est humble face à l'émotion. Et c'est pour ça que nous avons conclu notre dialogue en évoquant les cascades, en évoquant la joie de se baigner, de plonger dans l'eau, de vivre avec son corps. C'est une peinture qui vous invite à jouir et donc à vous baigner. Je ne vous invite pas à vous baigner ce soir, mais on peut quelquefois se baigner de l'intérieur. On peut quand même un peu...
On va essayer.
On va essayer. Picoler est une forme intériorisée de l'art liquide, si vous voulez. Donc, je conclurai sur cette, si vous permettez, en ce qui me concerne, sur cette perspective optimiste que, bon, peut-être, puisqu'on ne peut pas se baigner, nous boirons. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Boire la tasse ou boire un verre, c'est pareil. L'important, c'est de se laisser couler dans l'eau. Et quelquefois, moi, les cascades, les belles cascades, ça me donne le sentiment de grimper, justement, de m'élever. Les cascades n'aplatissent pas. Ça, c'est extraordinaire. Être emporté par le courant, quelle merveille. Qu'est-ce que c'est bien de nager. Et c'est une peinture où vous nagez, la peinture. Très simplement. On fait des discours parce que... moi, c'est pour faire l'intéressant. C'est ça, il faut l'apprendre très simplement, dans une jouissance directe. J'imagine mal cette peinture avec des cadres dorés, etc. Elle est faite pour être naturelle et se répandre sur le mur. Comme si... Moi, je prône le retour à l'âge des cavernes en ce qui concerne l'art contemporain. Il faudrait, étant donné les destructions, l'apocalypse dont je parle dans mon dernier livre qui s'annonce, je pense qu'on va revenir au concept de village, d'échange avec la convivialité, le regard entre les uns et les autres, etc. À ce moment-là, l'art redeviendra un art pariétal, parce que c'est le seul qui permet de créer la solidarité entre les humains, la communion autour d'une perception partagée. Vous voyez pas ?
Ben, je vous suis, je vous écoute, et je vois pas ce que je pourrais rajouter. Je crois qu'on est
peut-être
arrivé...
Peut-être que vous finirez peintre rupestre.
Peut-être que je n'ai pas cessé de pas être autre chose.
Mais vous êtes un peintre rupestre. C'est pour ça que quand on voit un tableau de vous encadré, on a l'impression que c'est une atteinte qui a été portée.
Ben oui, c'est l'époque qui fait ça.
Alors, il faut respecter les règles de la galerie, d'une galerie. On ne peut pas quand même pendre au mur comme une gueille, comme on dit chez nous en bordelais, un tableau, bien sûr. On n'est pas plus dans le problème de support surface. Ça n'a rien à voir.
Ou avec l'Arte Povera, on aurait pu continuer.
Voilà, Povera, c'est... Mais l'Arte Povera, il est vraiment Povera.
Ah, il est Povera, c'est ça.
On est dans la richesse. Remarquez, j'ai trouvé pour 1000 euros un Alberto Burri. Et je ne me suis pas rendu compte de l'affaire que je faisais.
Ah ben, vous pensez bien. Bon... c'est des gens qui ont su se comporter quand même un peu dans une direction qu'on aurait envie de continuer à suivre.
Oui, parce que il y a de l'émotion qui s'en dégage.
C'est côté direct où l'émotion n'est pas cassée par des comportements.
La période des sacs, c'est magnifique.
C'est magnifique, c'est super.
Donc, je vous laisse la conclusion. C'est à vous de conclure.
La conclusion, c'est que nous avons encore beaucoup de choses à rechercher ensemble dans une direction qui nous rassemble et qui est quand même effectivement celle où l'illusion qui nous est bien utile débouche quand même de temps en temps sur une étrange réalité que l'on appelle encore aujourd'hui art et qu'on a bien des chemins à continuer à faire dans les mêmes directions pour que cette capacité à encore... passer au-delà de tous les possibles, il se passe encore autre chose. On le cherche Et à plusieurs, on le trouve plus facilement que tout seul.
C'est pour ça que je recommande l'art rupestre, parce qu'il se partage.
Voilà.
Mais, ou la fresque, hein, pourquoi pas.
Oui, c'est encore autre chose.
Mais c'est humide aussi, la
fresque. Oui, c'est aussi humide. Mais un vrai savoir-faire, parce que monter un mur à la fresca, c'est pas donné à tout le monde. Et puis là, il faut avoir une grande urgence de savoir disposer le pigment à une rapidité incroyable. Le temps que ça prenne, c'est fini. Une fois que c'est pris, paf!
Vous voyez comment il est quand il parle de ça. Il a une vraie jouissance quand même. C'est une chance de pouvoir manier des couleurs. Moi, vous me filez un tube entre les mains, les chimpanzés font mieux. C'est dommage. Il n'y a que pour dessiner les femmes nues, mais ça, c'est à la limite de l'art. Non, parce que je me suis inscrit aux Beaux-Arts l'année dernière, mais ma production a été d'une telle médiocrité que j'ai renoncé. Non pas aux femmes, mais à les dessiner. Voilà, je ne peux pas m'empêcher d'être égrillard, toujours, c'est ma note.
Et ben voilà,
ma note habituelle, ma caractéristique.
On redescend.
Et ça ne s'arrange pas en vieillissant. Voilà.
Ne nous arrangeons pas trop. On aura tout le temps de s'arranger.
Oui, mais moi, l'éternité commence demain. Voilà. Merci, messieurs.